Voilà, donc nous réunis pour cette conférence conjointe, ça veut dire qu'il y a des scientifiques qui devront supporter un peu de sciences humaines et des sciences humaines qui devraient supporter un peu de sciences de la nature, mais je crois que ça sera pour l'enrichissement mutuel. Mais bien sûr, ce qui nous unit tous, c'est la base biblique, et je voudrais commencer justement notre journée de réflexion par cette base biblique, et j'ai choisi le psaume 8, qui est un texte vraiment indiqué par rapport à notre sujet, le psaume 8 qui pose justement la question « Qui est l'homme ?» hein? Et c'est bien cette question-là qui est au cœur de nos deux journées de conférence. Donc, le psaume 8, donc je le lis dans la Bible dite à la colombe. Au chef de chœur sur la guittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de ses adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes yeux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme des bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors, ce psaume place justement la réflexion sur l'homme dans un contexte d'adoration. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est le premier verset et le dernier verset du psaume. Et au milieu se place cette réflexion sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et cette question surgit dans la contemplation du ciel étoilé. C'est justement face au ciel, face à la lune, aux étoiles, que l'homme est renvoyé à sa petitesse, s'interroge sur qui il est. Alors bien entendu, nous savons aujourd'hui bien plus que le psalmiste sur l'immensité de l'univers. Donc, il y a bien cette, nous pouvons rejoindre le psalmiste en amplifiant cette question. Et ce qui était intéressant, c'est que la question du psalmiste, donc, est encore la question de l'homme aujourd'hui, mais ne reçoit pas la même réponse. Donc, le psalmiste, face à l'immensité du ciel, dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Il se rappelle la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu, la sollicitude de Dieu pour sa créature. Mais, vous connaissez, je pense, la parole de Blaise Pascal, qui dit ceci: le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Donc il y a bien la même expérience de l'immensité de l'univers, mais une autre réponse, ou plutôt chez Pascal d'ailleurs, c'est pas encore une réponse, c'est simplement l'homme laissé à lui-même qui voit cet univers comme un univers immense et qui l'effraie. Et donc, un pas de plus, que Pascal ne franchit pas, mais donc un pas de plus, justement, là je cite Jacques Monod, qui dit ceci, « L'homme sait maintenant que comme un tzigane, il est en marge de l'univers où il doit vivre. Univers sourd à sa musique, indifférent à ses espoirs, comme à ses souffrances ou à ses crimes. » Et donc, cette réponse très différente, au même ciel étoilé, se fait chez Jacques Monod, au nom de la science moderne. C'est justement l'homme qui se découvre par la science, seul dans cet univers immense, qui par la science se découvre dans un univers sans but, sans projet, et donc qui considère en tout cas que l'univers est sourd à sa musique et indifférent à ses espoirs. Et donc c'est cette vision scientifique excusez-moi parce que je vois plus l'affichage en bas, mais donc pour vous ça fonctionne, donc c'est très bien. Donc vous connaissez ces citations, ce sont des citations célèbres. Donc cette vision de l'homme, soi-disant scientifique, donc renvoie l'homme à la solitude. Et donc en tant que chrétien scientifique, évidemment se pose la question, est-ce que nous pouvons être avec le psalmiste, dans le psaume 8, et nous émerveiller devant l'immensité du ciel, et savoir que Dieu a de la solitude pour nous, ou est-ce que nous devons, parce que nous prêtons l'oreille à la science moderne, finalement finir avec Jacques Monod, donc où justement l'homme n'est pas émerveillé, mais effrayé par cet univers qui l'entoure. Et cette vision, disons, scientifique de l'homme, parce qu'elle s'appuie sur les sciences modernes, donc je voudrais en fait sélectionner un aspect spécifique, et c'est le fait que l'homme est déterminé, en tout cas semble déterminé par un ensemble de facteurs relevant des sciences. Donc ces facteurs sont différents, donc bien connus, les causalités biochimiques, comme les facteurs génétiques, neuronaux, hormonaux. Il y a les neurosciences qui révèlent la base physiologique des facultés cognitives. Et enfin, la psychologie et la sociologie font ressortir des facteurs inconscients qui orientent nos choix. Et donc, face à cette image scientifique de l'homme, donc des aspects de l'image traditionnelle de l'homme, de l'image chrétienne de l'homme, on pourrait dire classique de l'homme, comme un être responsable, libre de ses actes, justement placé devant Dieu, appelé à la relation à Dieu et aux autres, appelé à, disons, régner, en tout cas être vice-régent dans ce monde. Donc cette image-là semble mise à mal. Donc l'idée que nous serions libres n'est qu'une idée, en fait une illusion collective, certes nécessaire pour la vie en société, mais quand même une illusion qui serait contredite parce que les sciences nous montrent, et là à la fois les sciences de la nature et les sciences humaines, donc ce que les sciences donc nous montrent, donc tout cela serait une illusion. Et donc se pose évidemment pour nous, de quel côté nous nous plaçons. Alors nous voulons, je pense en tant que chrétiens, rejoindre le psalmiste dans sa réaction face à la contemplation du monde, mais en tant que scientifiques, nous ne pouvons pas ignorer les apports des sciences. Que faire? Alors il y a une réponse célèbre, c'est la réponse de Kant. Alors rassurez-vous, disons, là je lis plutôt pour les scientifiques de la nature, disons, rassurez-vous, je ne veux pas vous faire un cours sur la philosophie de Kant, mais voilà, donc un peu de philosophie quand même doit être permise dans une conférence conjointe. Ce que Kant dit, de façon très schématique, il dit que la science décrit le monde tel que nous l'expérimentons, mais non pas tel qu'il est. Alors les termes qu'il utilise, c'est d'un côté les phénomènes, c'est ce que nous expérimentons du monde. Et de l'autre côté, donc, il y a la chose en soi, das Ding an sich, ou donc l'énoumène, ça c'est la réalité en tant que telle, mais qui nous est inaccessible. Et donc la liberté, parce que c'est sur cet aspect-là donc que je vais zoomer, hein, donc la liberté de l'homme donc relève des noumènes. Donc la science nous montre un homme, disons un être humain, déterminé par des facteurs scientifiques, hein, et elle ne peut nous montrer rien d'autre, mais il y a au-delà, hein, une réalité, ou en deçà, hein, comme vous voulez, donc une réalité qui nous est inaccessible, que nous ne pouvons pas en fait expérimenter, mais qui est néanmoins réelle, et la liberté s'y loge. Donc une citation de Kant, « Je ne saurais dire du même être, par exemple de l'âme humaine, que sa volonté est libre et que pourtant elle est soumise à la nécessité physique, c'est-à-dire non libre, sans tomber dans une évidente contradiction. » Donc ce qu'il dit, voilà, donc il y a d'un côté effectivement la description scientifique, et cette description-là est entièrement déterministe, mais il y a la liberté de l'homme, mais justement dans un autre, disons, dimension, inaccessible à la science. Alors bien sûr, Kant écrit à un moment où la science de base, donc la physique newtonienne, elle est entièrement déterministe, donc les sciences ont laissé derrière elles cette vision déterministe du monde, mais l'indéterminisme de la physique quantique en particulier, ou aussi les mutations aléatoires, hein, en évolution, en biologie évolutionniste, ne changent pas fondamentalement quelque chose à l'image, parce que un acte, disons, pour qu'un acte puisse compter comme libre, hein, il doit être possédé par l'agent. Donc, c'est moi qui dois pouvoir décider, hein, si je fais A ou B. Si cette décision est déterminée par des facteurs physiques, biologiques, ou si cette décision relève du hasard, donc elle est sans cause, hein, comme ça suggérait donc des évolutions donc en sciences contemporaines, ne change rien à l'affaire. C'est le fait de posséder un acte, de poser un acte qui compte et qui contredit, hein, par une description scientifique complète de cet même acte. Donc, la solution de Kant, et il y a une version contemporaine qui vient sous le nom de Noma. Alors Noma, c'est Stephen Jay Gould qui a proposé ce nom. Donc il parle en anglais du non-overlapping magisteria, ou alors si on veut le traduire en français, donc du non-recoupement des magistères. Donc le magistère, hein, c'est le magistère romain d'abord, hein, donc l'Église catholique qui décide de l'interprétation des Écritures. Mais donc évidemment le terme est utilisé ici dans un sens plus large. Donc Gould dit, ceci, disons, considère que la science et la religion concernent des domaines qui sont totalement distincts l'un de l'autre, de sorte qu'elles ne peuvent pas entrer en conflit. Ça, c'est une version, on peut dire, contemporaine, peut-être un peu simplifiée, hein, de la solution kantienne. Et cette approche, en fait, se voit, hein, sous différentes formes. Par exemple, quand on nous dit que la science concerne le comment des choses, mais la religion le pourquoi des choses, hein, on est finalement dans une approche Noma. Ou encore, quand on nous dit que la science nous enseigne comment va le ciel, mais la religion, hein, comment aller au ciel, typiquement la même distinction. Ou encore que la science concerne les faits et la religion les valeurs. Et en fait, le concept de laïcité, hein, a intégré cette distinction. Donc la science ou les sciences font partie de la vérité publique, sur laquelle d'ailleurs il s'agit bien de se mettre d'accord. Un scientifique ne tolère pas différentes opinions, hein, sur telle ou telle théorie scientifique. Ou s'il y a différents avis, je veux dire, on les confronte et on essaye de progresser vers la connaissance de la vérité. Mais typiquement, la religion est logée du côté des convictions privées, sur lesquels il s'agit d'être tolérant, sur lesquels il s'agit surtout pas d'affirmer qu'il y a une vérité qui s'impose à tous. Et donc, il y a bien cette distinction. On peut justement faire la science d'un côté, ça c'est le domaine public, et la vie privée, la religion, ou peut-être les arts, etc., où chacun a ses goûts, mais cela ne relève pas de la vérité, cela ne relève pas de la connaissance. Et là, on est typiquement dans une approche gnouma. Alors, je plaide pour dire que gnouma, donc, est une pseudo-solution. Alors, je pense qu'une solution que nous, en tant que chrétiens évangéliques, ont assez largement intégrée, hein, parce que nous nous sommes assez largement, il me semble que nous nous contentons assez largement de l'idée que la religion est une affaire privée, qui ne doit pas intervenir, hein, dans la sphère publique. Alors ça, c'est peut-être un autre débat, hein, plus un débat de politique, mais il me semble que nous sommes assez bien arrangés, hein, d'une telle conception. Mais justement, je considère qu'il s'agit là d'une pseudo-solution. D'une certaine façon, gnouma, c'est un pacte de non-agression. Science et religion, chacun dans son domaine, et on ne s'embête pas mutuellement. Alors, pourquoi je dis que c'est une pseudo-solution? Alors d'abord, parce que le Dieu biblique est bien le créateur du monde que les sciences décrivent. Donc, comment pourrait-on avoir l'idée que la foi en Dieu n'aurait pas des répercussions dans le domaine scientifique? Je veux dire, si Dieu est le créateur de l'ensemble de la réalité, mais bien sûr, ça doit avoir une répercussion sur les sciences. Alors, épistémologiquement, donc en ce qui concerne la théorie de la connaissance, il faut dire que la dichotomie des lumières, que nous avons vue chez Kant, justement entre connaissance et foi, entre fait et valeur, est dépassée. Nous savons aujourd'hui plus que peut-être avant, hein, le fait que la valeur, que les valeurs, que la foi, les présupposés religieux, théoriques interviennent dans tout acte connaissance, et en particulier les travaux historiques de Thomas Kuhn, hein, à partir des années 1950-60, qui ont fait qui ont montré à quel point, en fait, même le travail scientifique se fait à l'intérieur d'une communauté, et une communauté qui a ses présupposés. C'est pourquoi, d'ailleurs, on ne s'invente pas scientifique. Je veux dire, il y a une initiation, hein, il y a un processus d'initiation qui est bien plus long que les processus d'initiation dans les sociétés traditionnelles. Alors, on appelle ça pas rite, on n'appelle pas ça processus d'initiation, on appelle ça études universitaires, hein. Et il y a bien sûr des rites de passage. Donc, si je veux dire une soutenance thèse, il y a toute une mise en scène qui ressemble à bien des égards, hein, qui fait équivalent de rites de passage. Et mais parce qu'on ne fait pas la science n'importe comment. Et il y a des questions qu'on pose et des questions qu'on ne pose pas, des explications qui sont admises et des questions qui ne sont pas admises. Et il y a aussi une évolution, hein, à travers les époques. Et donc, scientifiquement aussi, ce pacte de non-agression n'est pas satisfaisant parce que les sciences ont envahi de plus en plus ce domaine considéré jusqu'alors réservé à la religion. Donc, on pourrait citer justement les neurosciences, nous aurons un exposé sur les neurosciences tout à l'heure, qui, discuteront de cette question, hein, comment concevoir encore la liberté, la responsabilité aussi de l'homme, donc face à ces données neuroscientifiques. On pourrait aussi citer la question de l'origine de l'humanité, hein, question à laquelle on a répondu pendant longtemps sur un plan religieux, hein, où aujourd'hui, bien sûr, la science apporte aussi sa réponse. Donc la science elle-même, hein, ne se contente pas de rester dans son domaine et de laisser la religion tranquille dans le sien. Mais justement, je pousse encore un peu plus loin l'analyse, je soutiens donc l'idée que gnouma, hein, ne détrône pas suffisamment l'idole du scientisme. En fait, pourquoi je parle d'idole? Ben, disons, la science, on ne serait pas ici, je dirais, si on ne croyait pas à la légitimité, hein, de la science ou des sciences, mais comme toute chose de ce monde, hein, la science aussi peut devenir une idole. C'est justement un aspect du monde créé hein, sur lequel on place un tel point, une telle confiance hein, qu'on la divinise. Et c'est ce qui se fait assez souvent, je crois, par rapport à la science, ou par rapport aux sciences. Et donc, ça s'appelle alors plus précisément du scientisme. Hein, donc, on tourne la science en idéologie. Et finalement, quand on dit que la science s'occupe de son domaine, la religion de l'autre, on considère que la science est seule maître dans son domaine de compétences. Et ça, typiquement, hein, donc, on pourrait dire cette, alors c'est un certain progrès par rapport à un scientisme cru de mono, hein, où il n'y a même pas de limite. Je veux dire, il n'y a que la science, point la ligne. Donc là, il y a un petit progrès parce que maintenant on a, on pourrait dire, si vous permettez la comparaison, il y a maintenant un dictateur qui ne règne plus sur le monde entier, mais juste sur une partie du monde. Mais dans son domaine, il est toujours seul à bord. Et alors surtout, hein, typiquement, on considère que le domaine accessible à la science est identique avec ce que nous pouvons savoir. Justement, la religion, tout ça, ça relève de la croyance, mais pas de la connaissance, pas du savoir, donc pas de la vérité. Et d'ailleurs, même nous, hein, chrétiens, donc le disons parfois, ah oui, non, ça, on peut pas le savoir, il faut le croire. Alors ça, c'est d'ailleurs une opposition que la Bible ne fait jamais, hein, entre foi et connaissance. La foi donne plutôt accès, hein, à la connaissance d'ailleurs au plus haut degré. Et, en général aussi, on considère que toute description rigoureuse de l'expérience humaine doit se faire en catégorie scientifique. Mais tout cela, finalement, laisse à la science son domaine et donc réduit hein, les convictions religieuses à un domaine privé. Et donc, pour revenir maintenant de plus près, ça sont des considérations assez générales, mais pour revenir plus près au thème de l'identité humaine, hein, donc cela laisse finalement à la science le soin de décrire qui est l'homme, et donc la liberté, la responsabilité morale, la spiritualité, hein, serait donc de l'expérience intime, intérieure, mais qui ne se laisserait pas objectiver. Mais justement, il faut aller plus loin et de reconnaître que les sciences, en fait, si elles sont utiles, n'apportent que des connaissances partielles. Même prises ensemble, donc chaque science particulière, donc la physique, la biologie, la sociologie, adopte une méthode spécifique qui est adaptée à certaines questions et on laisse de côté d'autres. Alors on devrait le montrer, hein, donc maintenant concrètement, mais quand vous menez une expérience physique, hein, il ne faut pas s'étonner que vous ne pouvez pas constater de miracle, parce que vous avez exclu par la méthodologie même le recours au miracle. Je veux dire, même s'il se produisait sous vos yeux, vous ne pourriez pas le constater, vous ne pourriez pas le mettre d'ailleurs dans le papier que vous allez publier à la suite, hein, c'est exclu par la méthodologie. Et ça d'ailleurs tout à fait sa légitimité. Ou en neurosciences, il ne faut pas s'étonner qu'un neuroscientifique ne trouve pas l'âme humaine, parce que, en tout cas c'est ce que je plaide, c'est la méthodologie même des neurosciences l'exclut. Ou pour la liberté par exemple de l'homme, je veux dire, on soumet là l'être humain donc à un certain protocole expérimental qui ne permet pas de capter le propre de la liberté. Et donc, l'image ou la métaphore que je voulais vous soumettre, c'est celle d'une projection. Alors, la projection que nous connaissons le mieux, c'est la projection spatiale. Donc, quand vous avez un objet en trois dimensions, vous faites une dimension en deux dimensions. Ça peut être très intéressant. D'ailleurs, chaque fois que vous faites un plan, disons une esquisse sur un bout de papier, hein, vous faites quelque chose en deux dimensions. Ça a son utilité. Même sa très grande utilité dans certains contextes. Mais après, il ne faut pas vous étonner que vous ne voyez pas d'objets en trois dimensions. Parce que, évidemment, vous avez fait une projection, vous avez une simplification, vous avez fait un modèle. Et donc, évidemment, il y a certaines dimensions qui ne sont pas captées. Et je plaiderais, c'est la même chose pour la liberté de l'homme, qui est exclue par la méthode scientifique elle-même, c'est pas une raison pour dire qu'elle n'existerait pas. Et donc, les sciences apportent des connaissances partielles, alors c'est vrai pour chaque science particulièrement, mais c'est aussi vrai pour les sciences prises ensemble. Et je pense que ça, c'est peut-être plus difficile à admettre, hein, que les sciences elles-mêmes n'épuisent pas le réel. Et du coup, les sciences ne prétendent pas, ne peuvent pas prétendre à une description complète de l'homme, d'autres éléments dont l'expérience de pouvoir poser des choix sont à intégrer dans l'image. Donc ce qui se présente comme la vision scientifique de l'homme, en fait, c'est l'absolutisation d'une projection de l'être humain. Donc, pour rester dans l'image, donc on examine l'homme en utilisant certaines méthodologies, on aboutit donc à une description partielle de l'homme, mais si ensuite on fait un pas de plus et on dit, eh ben voilà, et c'est ça l'homme, donc à ce moment-là, on a absolutisé une description partielle de ce qu'est l'être humain. Et dans cette description, on ne trouve plus la liberté, la responsabilité morale ou encore la dignité de l'être humain. Ce n'est pas étonnant qu'on ne peut pas mener d'expériences physiques ou psychologiques ou même sociologiques qui pourraient avoir comme conclusion le fait que la vie, par exemple, d'un homme est inaliénable. Ce n'est pas de cet ordre-là. Alors, maintenant on fait un peu une récapitulation donc du chemin parcouru, donc ce que nous avons vu jusque-là, c'est que rien ne nous oblige en tant que scientifiques de nous placer du côté de Mono. On peut rester avec le psaume 8. C'est pas la science qui nous le dit, c'est l'absolutisation de la science. Et donc les sciences comprises comme partielles n'excluent pas la liberté. Mais ça, c'est encore pas tout à fait satisfaisant, parce que c'est pas parce que les sciences n'excluent pas la liberté humaine que nous avons prouvé que l'homme est libre. Parce que c'est sur cet aspect que je me concentre. Donc, il faudrait encore trouver un fondement de la science. Alors, on pourrait d'abord dire, et je crois que c'est la réponse la plus ordinaire, c'est de dire que la liberté est une expression commune à tous les hommes. Mais c'est quand même une expérience fragile. On trouve des avocats, justement, de l'homme-machine. Alors, j'ai pris un livre assez, disons, ancien, donc de la maîtrise de 1748, donc le titre est programme, et on trouve des auteurs qui défendent cette idée-là, ou alors si c'est pas l'homme-machine, c'est l'homme-animal. Donc j'ai le souvenir d'avoir visité un petit musée de paléontologie, donc à Pékin, dans un petit institut de recherche. Vous savez qu'en Chine, donc, on est très actif au niveau de la paléontologie et justement donc de l'origine de l'humanité, parce qu'il y a beaucoup de, disons aussi, des fouilles dans cette région-là. Et ce qui était très frappant, c'était que dans ce petit musée, on s'impliquait, je veux dire, à chaque fois, et dans les mots même, alors en traduction anglaise, je peux pas juger du chinois, mais en traduction anglaise, on s'efforçait à souligner que l'homme était un animal. C'était des textes comme « l'homme, comme les autres animaux ». Voilà, donc il y avait toujours cet effort de placer l'homme au sein donc des animaux, ben oui, en accord avec l'idéologie communiste athée régnant. Et donc, expérience fragile, et donc je plaide que la création de l'homme en image de Dieu apporte le fondement définitif. Donc même si la liberté ou la dignité aussi de l'homme, on pourrait dire sont reflétées un peu dans une expérience commune de tous les hommes, pour avoir un vrai fondement solide, il faut se tourner vers l'écriture et en particulier vers la création de l'homme en image de Dieu. Et d'ailleurs, le psaume 8, donc fait écho et comme un commentaire d'ailleurs de Genèse 1, de cette charge aussi qui est confiée à l'homme, donc de régner en vice-régent sur ce monde terrestre et en particulier sur les animaux. D'ailleurs, si la société occidentale a, en tout cas jusqu'à récemment, eu une conviction très forte de la valeur de l'être humain, de sa dignité, de sa capacité aussi d'agir et de changer le monde, c'est, je crois, un héritage, en fait, de la Bible. Donc, héritage qui n'est pas toujours reconnu, mais c'est quelque chose d'assez frappant quand on compare avec d'autres cultures et d'autres civilisations. La civilisation occidentale a certainement une conscience aiguë de la valeur de l'individu par rapport au collectif, et aussi des capacités, donc des capacités humaines de changer le monde, d'influencer ce monde et de ne pas subir simplement un destin qui serait inéluctable. Donc justement, je veux donc le temps qui me reste vous montrer quelques aspects de cet héritage biblique, ce que l'homme dit sur l'identité humaine, et plusieurs aspects où l'héritage biblique ou l'enseignement biblique apporte un éclairage spécifique donc par rapport à l'identité humaine. Alors, l'homme, image de Dieu. Ce qui est assez frappant, c'est qu'au Proche-Orient ancien, les rois et parfois les prêtres sont considérés image de Dieu. Donc ça, ce n'est pas du tout en fait exceptionnel. On le trouve dans d'autres textes. Mais dans la Genèse, ce sont tous les hommes, d'ailleurs tous les êtres humains, donc hommes et femmes, qui reçoivent ce statut. Et on peut donc parler d'une démocratisation du statut d'être en image de Dieu. Alors, il y a un texte en Égypte, effectivement, un texte isolé qui attribue aussi l'image de Dieu donc à l'ensemble de l'humanité, mais ce texte n'a pas eu de descendants, je veux dire, et pas d'influence. C'est vraiment un texte isolé. Mais dans la Bible, c'est vraiment une notion clé pour comprendre la dignité de l'homme, sa responsabilité. Et donc, aussi, ce qui est frappant, c'est que dans la Bible, ce sont des humains ordinaires qui forgent l'histoire. Alors là, je m'appuie sur une étude donc par un théologien donc Middleton, The Liberating Image, donc qui a fait une étude assez approfondie sur cette notion d'image de Dieu et qui le fait ressortir. Typiquement, juste pour donner quelques exemples. Donc, vous avez, alors, au début de la Genèse, par exemple, les généalogies ne sont pas des généalogies de rois, comme on le connaît, là, des textes sumériens, mais ce sont des généalogies d'hommes ordinaires. Vous avez les patriarches, d'ailleurs, ne sont pas des rois, pas des prêtres, mais donc sont d'abord des hommes qui mènent une vie familiale, d'ailleurs tout à fait ordinaire, et ça se lit pratiquement comme une biographie moderne, sauf que c'est une catégorie littéraire qui n'existe pas à l'époque. Je veux dire, il n'y a pas d'équivalent au récit des patriarches dans la littérature du Proche-Orient ancien, donc où on raconterait en détail la vie de famille. Alors, des hommes qui vont devenir, bien sûr, les ancêtres de la nation, mais qui, à ce moment-là, sont encore de simples individus. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de constater que les exploits culturels ne sont pas présentés comme des dons divins. C'est pas le Dieu qui donne le feu, par exemple, ou l'art, de faire certaines choses donc à l'humanité, mais c'est les hommes, manifestement, d'après le récit de la Genèse, qui construisent la première ville, qui inventent la musique, qui inventent la fonte du bronze et du fer, ou encore la viticulture. Et un fait aussi très frappant, et là vraiment un fait unique de la révélation biblique, c'est le fait que le mal ne fait pas partie de la structure du monde, ni d'ailleurs de la nature humaine, mais il est conséquence d'un choix. C'est tous les récits de Genèse 2 et 3. On voit que le mal ne fait pas partie de la création, ne fait pas partie du monde tel qu'il est, C'est pas simplement la matière qui est mauvaise, comme chez les gnostiques, ou justement la nature humaine qui aurait un passé. Alors pour prendre maintenant un modèle moderne, hein, donc qui aurait un passé évolutionniste et donc qui expliquerait du coup certains penchants mauvais de l'homme. Hein, donc là, la Bible, adopte une autre approche. Hein, c'est pas quelque chose d'inéluctable. C'est l'homme n'est pas méchant par nature, il est devenu par un acte historique, par quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, dans un choix que les premiers humains ont posé et qui a ensuite des répercussions pour l'ensemble de l'humanité. Donc là, encore une fois, un accent sur l'importance de l'action historique, d'ailleurs dans toute son ambiguïté, pour le meilleur comme pour le pire. Et ce qu'on peut noter aussi, que la Bible est assez unique, disons en tout cas originale, dans le sens que le péché dans la Bible donc englobe le domaine social, alors que le péché dans les religions de l'Antiquité est avant tout d'ordre cultuel. Donc, il y a des rites à respecter, il y a certaines prescriptions culturelles à respecter, mais ce qui se passe entre les hommes, comment on règle la vie des hommes. Alors oui, les dieux portent un certain intérêt, peut-être, il y a peut-être un peu un ordre du monde donné, mais il n'y a pas cette implication directe, et en particulier, il n'y a pas ce lien direct entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, qui dans les révélations bibliques vont ensemble. D'ailleurs, Jean le dit, on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr son frère qu'on voit. Et donc ce lien-là qui pour nous paraît évident, et d'ailleurs je pense même pour les non-croyants, en Occident paraît évident, ce lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne va pas de soi dans les religions de l'époque. Alors déjà, on peut souligner que le comportement des dieux proches orientaux ou des dieux grecs romains ne peut guère servir de modèle pour les humains. Ils sont pas bons comme l'est le dieu biblique. D'ailleurs, heureusement que les Grecs n'ont jamais eu l'idée de calquer la vie des hommes, ou les prescriptions en tout cas pour la vie des hommes, sur le comportement de leurs dieux. Les dieux se comportent comme les hommes se comportent, mais certainement pas comme les hommes devraient se comporter. Donc déjà ce lien qu'on voit dans la Bible, je suis saint, donc soyez saint comme je suis saint, donc ça marche pas, en tout cas ça marche pas pour les dieux grecs, et même pour les philosophes grecs. Le dieu des philosophes grecs est impersonnel et ne porte pas d'intérêt à la vie des hommes, ni chez Platon, ni chez Aristote. Ce sont deux domaines séparés. Et je cite juste une parole de Saint Bonaventure, donc un théologien du Moyen-Âge, mais qui a bien vu la différence là entre le christianisme et les philosophies grecques. Les philosophes grecs ne savaient pas que le péché est une offense à la majesté divine. Donc l'homme qui est placé devant Dieu et où la vie sociale compte devant Dieu, cette responsabilité de l'homme devant Dieu n'a pas été perçue. Alors dans la Bible, ce fait que l'homme est placé devant Dieu s'exprime par l'alliance. Donc c'est une notion tellement centrale à la Bible qu'on est venu par désigner les deux parties de la Bible par ce terme. Testament, c'est latin testamentum, c'est l'alliance, c'est donc l'ancienne, la nouvelle alliance. Donc l'homme a cette dignité aiguë d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme plus grande dignité que d'être partenaire d'alliance? Toute la vie humaine se place coram Deo, comme on dit en latin, donc devant Dieu. Et c'est bien là aussi que se situe le fondement de l'espérance éternelle, comme le fait ressortir Jésus dans Luc 20. D'ailleurs, c'est un texte à premier abord un peu surprenant. Donc, il discute avec les Sadducéens sur la résurrection des morts. Et Jésus dit, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, les morts ressuscitent. Quand on lit ça comme ça, on se dit, ben, c'est un peu bizarre comme argument. Hein, ce qui est derrière, c'est de dire que si Dieu conclut alliance avec des êtres humains au point de devenir leur Dieu, il ne peut pas accepter qu'ils vont disparaître, hein, qu'ils ne vont pas en fait avoir une destinée éternelle. Hein, donc c'est cette alliance que Dieu conclut avec certains hommes, hein, qui est, je dirais, le fondement le plus, ou le roc, hein, le plus solide, pour fonder la dignité de l'homme et l'espérance éternelle. Et à ce titre, je voudrais citer en fait un texte du deuxième siècle, qui est on pourrait dire la première tentative connue, hein, pour justifier rationnellement l'espérance chrétienne face à la mort. Et donc, pour fonder la résurrection, Athénagore s'appuie sur la fin de l'homme, qui est de connaître la bonté, la sagesse et la justice de Dieu. Et donc, comme l'homme est appelé à connaître Dieu, ben, il ne peut pas mourir. En tout cas, la mort ne peut pas être la fin de cet homme. Il doit ressusciter, tout simplement parce que la bonté, la sagesse et la justice de Dieu sont infinies. Si donc l'homme dans cette vie ne fait qu'une expérience finie de cette bonté de Dieu, donc il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Je veux dire, si l'homme est vraiment appelé à cela, hein, il ne peut pas être limité à une existence finie. Alors bien sûr, c'est pas un argument scientifique ici, hein, c'est un argument qui s'appuie sur le caractère de Dieu et sur la vocation de l'homme. Et je voudrais terminer avec une citation d'Étienne Gilson, donc Étienne Gilson, qui était membre de l'Académie française et qui a fait alors un ouvrage absolument merveilleux, hein, sur l'esprit du christianisme, disons, et les implications du christianisme en termes philosophiques. Et il écrit ceci. Et d'ailleurs en commentaire en fait au texte de Athénagore. Donc, comme il ne dépendait pas de nous d'exister, il ne dépend pas de nous de ne plus exister. Le décret divin nous a condamnés à l'être, fait par la création, refait par la rédemption, et à quel prix ? Nous n'avons le choix qu'entre une misère et une béatitude également éternelle. Rien de plus résistant qu'une individualité de ce genre, prévue, voulue, élue par Dieu, indestructible comme le décret divin lui-même qui l'a fait naître. Et il écrit encore ceci, hein, nous sommes des personnes parce que nous sommes les œuvres d'une personne. Donc, si on cherche vraiment un roc, disons, indestructible, pour fonder l'identité humaine en tant que personne, ben, il faut se tourner vers les révélations bibliques, hein, qui nous montrent créé par ce Dieu personnel, qui nous montre créé, hein, justement pour être en communion avec lui, pour être partenaire d'alliance. Je voudrais en fait conclure mon intervention par un chant. Alors bien sûr que je ne veux pas chanter seule, que nous allons chanter ensemble. En fait, c'est un chant qui reprend le psaume 8. Donc pour revenir au texte qui a été au départ dans notre réflexion, quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est donc l'homme au Éternel que tu prennes garde à lui. Donc il y a bien cet émerveillement devant la grandeur du monde que Dieu a créé, qui nous rappelle à notre petitesse, mais justement, comme nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, mais que c'est Dieu qui a créé le monde, qui nous a créés, à ce moment-là, cela ouvre non pas au désespoir, comme chez Monod, mais ça ouvre à la louange, parce que nous savons que Dieu prend soin de nous. Et donc, je vous invite à lever et à prendre ce chant. On voit le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les
je vois.